Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Je suis Ala, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
Et on travaille toutes les deux au C3RP, une unité du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences.
On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience, alors plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement. Et on reçoit aujourd'hui Mona, donc tu as le même prénom que moi. Je suis ravie de te recevoir. Alors Mona, l'épisode d'aujourd'hui porte sur la créativité, l'imagination dans l'autisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi étant enfant ou même plus tard, à quoi ressemblaient tes centres d'intérêt ?
Alors le plus loin que je me souvienne, mon centre d'intérêt, d'où un peu tout découler, c'est tout ce qui brille. Ma famille me l'a raconté après, c'est-à-dire j'étais complètement fascinée par tout ce qui brillait, tout ce qui chatoyait, le tissu, les bijoux. Dans le bus, je regardais tout le temps les dames avec des boubous africains ou des vêtements avec du velours et j'étais complètement hypnotisée. Hypnotisée, j'en sais rien, mais... C'était vraiment, je tournais mon attention là-dessus. Je suppose que c'est de là, mais je suis pas tout à fait sûre, j'ai développé une sorte de fascination pour la Chine ancienne quand j'étais petite. Je pense que c'est à partir des costumes d'opéra chinois qui sont extrêmement brillants, avec des coiffes, des trucs complètement délirants, des couleurs magnifiques. Petite, je sais pas... Je ne savais pas très bien la différence entre les différents costumes asiatiques, les costumes balinais, les costumes chinois. Je mettais un peu tout ça dans le même sac. Dans mon quartier, il y avait des commerçants qui vendaient, pas des costumes d'opéra, mais des objets estampillés chinois, brillants souvent, des éventails immenses avec des lettres d'or. Et ils m'appréciaient pour une raison un peu simple, c'est que j'avais les cheveux, la peau claire, les cheveux noirs, les yeux un peu bridés, et ils étaient persuadés que j'étais à moitié asiatique et que mes parents montaient et que j'étais à moitié chinoise. Et donc je recevais des petits cadeaux quand je passais, et ça renforçait complètement mon idée que la meilleure chose au monde, c'était la Chine, les vêtements chinois, tout ce qui me parvenait comme étant nommé chinois. Après, j'ai eu une énorme peine d'amour, on va dire, parce que une énorme déconvenue, parce que je me suis rendu compte que c'était énormément du fantasme et que la Chine telle que je me la rêvais n'avait jamais existé.
C'est à quel moment tu t'es rendu compte de ça ?
Vers 8 ans, 7-8 ans. Je me vivais vraiment comme une princesse de conte. Je passais mon temps déguisée. Je me lamentais de ne pas avoir l'air chinoise. pas complètement.
La moitié, c'est pas suffisant.
En grandissant, je suis un peu sortie de ma bulle. J'étais un peu forcée. J'ai appris des choses et j'ai appris que c'était... Déjà, la Chine ancienne ne ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais. Et ensuite, ce qui nous parvenait à Paris, en ville française de la Chine, n'était pas vraiment forcément la Chine elle-même. Mmh. En plus, là-dessus, ma famille était passionnée d'histoire, donc j'ai assez vite appris des choses sur la phase maoïste de la Chine, les massacres, les famines, et ça a été un énorme bouleversement. J'ai été dégoûtée. Ça a vraiment été comme une sorte de déprime. J'ai enterré ça en moi, très loin, en ne voulant plus jamais y penser.
Vraiment comme une rupture amoureuse, comme tu disais.
Oui, complètement. Ouais. Mais j'étais vraiment en plus très... Mes parents avaient commencé à s'investir un peu. Ils m'avaient amené à une sorte de conférence où j'avais appris vraiment, pour le coup, des choses authentiques. Mais qui étaient quand même très loin de la réalité actuelle chinoise, des énormes buildings. Je savais même pas que ça existait. Quand j'ai découvert que les villes chinoises industrielles étaient, selon mes critères, affreuses, j'ai vraiment eu une énorme déconvenue, quoi. Ça m'est vraiment tombé sur la tête. du coup, j'ai plus voulu entendre parler de la Chine pendant des années. Je me suis reportée vers des choses beaucoup moins risquées, parce que du domaine du rêve. Donc, impossible à prouver que c'était comme ça ou pas. Je me suis reportée complètement vers la mythologie.
D'accord.
vers les mythologies, ce qui me semblait très rassurant parce qu'en plus, souvent, ça fonctionne avec des systèmes d'opposition, des systèmes familiaux, des machins, fils de machin, fille de machin, frère de machin, des symboles. Chaque dieu et déesse a son symbole, son domaine, tout est très cloisonné, sauf dans la mythologie celte, mais ça, je me suis rendu compte après. Et pour moi, c'était scandaleux de découvrir que les dieux et déesses celtes étaient un peu flous. Mais au début, j'étais très centrée sur les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Et c'était très plaisant pour moi parce que dans les livres pour enfants qu'on me donnait, ils étaient vraiment présentés comme inaltérables. Hathor était la déesse à tête de vache, Bastet était la déesse à tête de chat, ils avaient chacun leur domaine, c'était plus facile pour moi, en plus de m'identifier à certaines déesses et de trouver un peu des modèles dans ma vie qui me manquaient un peu au quotidien, enfin, des modèles mythiques et immenses, comme par exemple la déesse Artemis, qui courait dans la nature, ça me parlait beaucoup. Et ça parlait pas mal aux autres petites filles autour de moi quand j'en parlais, donc ça me permettait parfois de faire un peu un pont vers les autres. Là où la Chine, pas du tout. Pas vraiment. Mais, la Chine rêvait pas vraiment. Mais, donc...
Et ça veut dire comment t'en parlais aux autres personnes autour de toi quand t'étais enfant ?
Ça passait par le jeu. Quand je m'entendais... Quand ma famille me faisait rencontrer de petites filles, ou l'école, ou voilà, ou quand il y avait possibilité de jeu... Pas toujours de tout repos, hein. Mais quand même, le jeu permettait... à moi de m'épanouir un peu parce que mes idées alors que dans la réalité j'étais vue comme bizarre et pas souhaitée et dérangeante, dans le cadre du jeu et des histoires je devenais fascinante et intéressante et même parfois j'avais un rôle et petit à petit j'ai eu un rôle un peu en dehors des autres enfants toujours pas vraiment parmi les autres, à côté des autres, mais moins désagréable que le rôle de souffre-douleur. Donc, finalement, c'était ça ou rien. donc c'est le rôle de celle qui raconte des histoires, qui montre des images, qui explique des choses. Et ça m'a un peu permis de faire un peu de lien avec les autres à ce moment-là, qui sinon n'existaient pas. À part, pour être tout à fait juste, ça existait à la piscine parce que dans l'eau, je suis une autre personne. Donc, dans l'eau, je faisais de la socialisation quasiment sans problème. Mais en dehors de l'eau, il faut tout un tas de rituels, on va dire, entre enfants pour que quelque chose se mette en place. Une fois que j'avais un peu fasciné d'autres enfants avec des histoires... avec de l'imagination, avec des mythologies, des histoires de... Voilà, ça me permettait d'avoir une place.
D'accord.
Maintenant, je décrypte ça comme ça. Petite, je ne me disais pas spécialement ça. Enfin, je ne voyais pas spécialement ça.
Et en dehors de la mythologie, tu avais d'autres... Tu t'es mis à inventer, toi, des histoires là-dessus ?
Je me suis créé des religions.
Tu t'es créé des religions, hein, raconte-toi.
Et du coup, pour les autres aussi. Je suis très perfectionniste. Donc, il y avait toujours des choses qui ne me plaisaient pas dans telle ou telle religion ou telle mythologie. Même si j'avais mes préférés et mes déesses et dieux préférés, j'étais quand même pas vraiment croyante. C'était vraiment plus culturel que... Vraiment imagination que même si j'ai essayé de faire des petits trucs avec un buste de Bastet en plâtre, mais avec mais j'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans quelque chose de totalement religieux. Et donc du coup, je faisais ma cuisine, je prenais ce qui me plaisait ou pas, et je me fabriquais des panthéons ou des genèses. Parfois, j'impliquais mes frères et sœurs. D'ailleurs, j'avais mes sœurs se rappellent très nettement que je leur avais créé une religion du cacao avec différentes entités de la croissance du cacaoyer et que quand elles mangeaient du chocolat, elles y pensaient.
Et c'était voilà. La façon de prier, c'était manger du chocolat.
Je sais plus, parce que moi je prie tous les jours alors. Elles s'en souviennent nettement mieux que moi. En fait, elles s'en souviennent mieux que moi et pour elles, c'était encore important comme un fait d'enfance important, alors que moi je me souviens de ça comme d'une blague un peu. Mais j'avais mes propres personnalité rassurante inventée de mythologie. Et petit à petit, je me suis constituée un monde parallèle, auquel je croyais pas vraiment, mais qui me rassurait beaucoup. Et mes dessins tournaient autour de ça, avec même des tentatives de vocabulaire, de langage, de mythes. Et c'est devenu une sorte de partie de moi immense, comme si, que personne ne voyait, comme si j'avais un ballon rempli d'air chaud derrière moi qui gonflait. Et ça me plaisait tellement mieux que le quotidien en général que je m'y réfugiais beaucoup. Plus tard, en grandissant, quand j'ai découvert les films autour de l'univers de Tolkien et les livres comme Harry Potter, j'ai eu la sensation que les auteurs avaient fait ça, mais jusqu'à le porter dans le monde réel et le partager avec les autres. Et je me sentis énormément frustrée de ne pas arriver à le faire. Et c'est devenu, pendant un moment, le but de ma vie. Au cours de l'adolescence, c'est devenu créer quelque chose de tellement beau qui soit partagé. Et de le faire passer. Je me suis mis une pression de dingue pour y arriver.
De vouloir créer quelque chose
De vouloir rendre partager, faire quelque chose de tellement cohérent et intéressant qui fasse partie de la réalité d'autres gens. Un peu comme on raconte le soir des histoires aux enfants. Pour moi, je ressens que les écrivains font un peu ça avec nous, ou les peintres. Et c'est devenu le... quel que soit le média, c'est devenu mon idéal du moment.
C'est ce que Tolkien faisait, du coup. C'était sa manière de partager. C'était avec ses enfants, ses petits-enfants, hein, de mémoire.
C'était ça, la base.
Et du coup, toi, tu disais que tu faisais ça, en fait, avec tes petites copines à l'école, au début, sur la mythologie.
Et puis tes frères et sœurs aussi.
Et tes frères et sœurs.
J'amorçais ça.
Ça allait jusqu'où, du coup? Quel était le bloc? Enfin, est-ce qu'il y a eu un bloc? Comment tu l'as ressenti?
Je pense que j'avais quand même besoin d'un jardin secret. Donc, je disais pas tout.
D'accord.
J'avais aussi honte, parce que tout ça était quand même... Ça, c'était un peu la partie souriante de mes jeux avec les autres. Mais j'avais quand même des grosses difficultés relationnelles avec les autres. Je me sentais très menacée. Je sentais que c'était très fragile, ma sécurité avec les autres, même avec les enfants, enfin surtout dans une cour de récré. Je sentais que ça pouvait aussi être très mal reçu.
C'était quoi les difficultés que tu décris là?
C'était d'entrée de jeu, j'étais ressentie comme différente, sans que même moi je comprenne pourquoi. Mais ça passait avant les mots. J'étais vue comme étrange. Et les autres, d'ailleurs, je pense que les autres enfants ne comprenaient pas, même pas tellement eux-mêmes, pourquoi. Ils me trouvaient étrange et ils cherchaient un peu des raisons. Mais du coup, j'ai un peu tout entendu. J'ai entendu que j'étais trop blanche, j'ai entendu que j'étais trop brune, que j'étais trop bouclée. Trop grande, trop dans la lune, c'était vraiment comme un truc que j'exhalais, quoi. C'était impossible pour eux de pas en tenir compte. Donc ça pouvait mener lieu à du harcèlement. Et moi, ça me terrifiait complètement. C'était vraiment... avec les années, j'ai appris à dissimuler. Donc je sais maintenant que quand je commence une activité avec un groupe régulière, j'ai un peu une marge de 3 mois, selon que les gens me sentent ou pas, avant d'être découverte en quelque sorte, comme différente. Et à ce moment-là, le pire peut arriver, c'est-à-dire je peux être complètement rejetée, ou même il peut y avoir de la violence, de l'humiliation, vraiment j'ai... À la limite, parfois, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. Je suis mise sur un piédestal. C'est pas très agréable non plus, en fait. Parce que ça met complètement à part. Enfin, c'est pas... et en plus, les gens se racontent des histoires. Ils pensent que mon côté extraterrestre me rend mentalement supérieure ou... Enfin, me voit un peu comme une sorte de guide. Franchement, si j'avais une autre personnalité, avec ce que j'ai appris des autres maintenant et des phénomènes de groupe, je pense que je pourrais être chef de secte. Parce que j'ai vraiment eu souvent et encore maintenant, il y a quand même une majorité de gens qui réagissent mal, mais il y a aussi des gens qui réagissent en allant me demander le sens de la vie. ce qui est fatigant parce que je l'ai pas voilà, mais j'ai un peu survécu à ma scolarité en étant mise dans un rôle autre. Les moments où j'étais dans des groupes, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais les moments où j'étais dans un groupe, j'étais seulement dans un groupe au titre de personnalité extérieure qui n'est pas par exemple au 6e et en 5e, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais dans un groupe de filles et on demandait de moi que je sois la juge quand il y avait des problèmes relationnels entre les gens, ce qui était assez drôle parce que j'avais moi-même, enfin c'est drôle, assez absurde parce que j'avais moi-même toutes les peines du monde à comprendre ce qui se passait entre les gens. Mais on me demandait, comme dans des vrais procès, d'être juge et de juger si la personne avait fait bien ou mal, si elle devait avoir une peine ou pas. Ou alors on allait me voir pour des sortes de, j'ai pas d'autre mot, rituel. Enfin, j'étais vraiment mise dans la place de prêtresse, juge, chamane, même quand je n'avais pas cherché du tout et que je racontais pas des histoires de mythologie.
Est-ce que tu te servais de tes histoires de mythologie ou de ta créativité, de ton imagination pour sortir de... Enfin, pour trouver une solution, en fait?
Moi-même, je suis passionnée de mythologie et d'histoire et j'aime les raconter. Et j'aime qu'on me raconte. Donc, quand l'occasion se trouvait... par exemple, avec des cousines ou des petites filles dont nos mamans étaient amies. Donc, on était presque cousines directement. Il n'y avait même pas vraiment le choix de la relation qui se posait. Voilà, on s'entendait ou on ne s'entendait pas, mais on jouait ensemble. Et je me souviens très bien que je les embarquais très loin avec des histoires de rituels, de déesses lionnes, de tribus, de... Voilà. Et elles étaient demandeuses. En fait, une fois qu'elles avaient commencé à jouer à ça, elles tenaient beaucoup à y rejouer avec moi. Et elles y mettaient parfois beaucoup plus de sérieux que moi. Finalement, c'était pas affreux. Hein. Mais bon, c'était encore toujours un peu dans... avec l'idée que je sois différente des autres, quand même.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et comment ça a évolué? Donc, ton imagination a évolué après la mythologie. Il y a eu la Chine, ensuite la mythologie, et après...
Alors, la mythologie, ça m'a occupé un très long moment, jusqu'à ce que je me sente tellement seule et enfermée dans mon monde que finalement, je me sente en situation de désespoir. Et encore une fois, ça n'a pas été une rupture nette comme avec la Chine ancienne, rêvée, mais j'ai eu une sorte de déception. Que ça puisse pas m'aider au-delà des histoires que je me raconte, que ce soit juste une consolation et pas un moyen vraiment d'être heureuse. Malheureusement, j'ai découvert que j'étais une humaine, pas une extraterrestre, même si je passe souvent pour extraterrestre, et qu'en tant qu'humaine, j'avais besoin de relations sociales et ça m'a vraiment beaucoup saoulée. J'aurais préféré rester dans mes rêves et tout. Mais en fait, j'étais trop... Enfin, j'étais rattrapée par la solitude, quoi. Mm-hmm. Donc, puis j'avais l'impression d'une imposture quand les autres me considéraient comme une juge. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était un rôle pour jouer et que les autres, ils m'étaient trop de sérieux. En plus, je voulais pas de ça. Je voulais être incluse. Finalement, tout ce continent imaginaire, avec les histoires qui allaient avec, a lentement sombré. Vers mes 16-17 ans, ça commençait déjà à être la fin. À ce moment-là, je suis rentrée dans des dépressions énormes. Donc, je sais pas si j'avais vraiment... je pensais tellement à mourir, en fait, que j'avais du mal à me raccrocher. Je me raccrochais aux fictions très fortes qui imprégnaient la société, comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, certains personnages. Par exemple, Luna Lovegood me parlait énormément. Mmh. Parce que même dans un monde de sorcellerie où tout le monde est censé être différent, elle était ostracisée dans les histoires d'Harry Potter et elle lui arrivait des trucs malheureux. Et elle était traitée différemment et... Enfin, pour moi, je m'y reconnaissais totalement.
Finalement, c'est une période où tu t'es raccrochée à la créativité des autres.
Oui.
Et où toi, est-ce que tu arrivais à être créative encore?
Plus tellement. Je me raccrochais au dessin parce que c'était le talent que les gens me reconnaissaient, que ça m'avait jamais tellement trahi. Et j'avais besoin qu'on voit une valeur en moi, d'avoir une raison d'être là, et donc je me raccrochais au dessin. Mais de plus en plus, avec de plus en plus de perte de sens, en fait. Je savais pas pourquoi j'étais là. Je savais juste qu'il fallait que je réussisse à survivre, à avoir une vie. J'avais certains objectifs en tête qui me paraissaient complètement très durs à atteindre. Et donc, j'avais l'impression d'être sur un tapis roulant, en route pour quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire les études, la réussite, briller. C'était le seule chose qui... Il fallait que je sois excellente. Parce que tout le monde, même les gens qui ne m'aimaient pas et qui me disaient que j'étais bizarre, finissaient par me dire « t'es super intelligente, il faut que tu fasses un truc incroyable ». Et moi, je me sentais super démunie, surtout. Mais il fallait quand même que je fasse quelque chose d'incroyable. Donc j'ai bossé le dessin à fond pour devenir vraiment... la meilleure possible. Mais le problème, c'est que pour moi, c'était pas vraiment une fin en moi d'être la meilleure possible, donc j'avais des énormes moments de déprime. Dans ces moments-là, mon imagination se mettait plutôt à me présenter des images affreuses. C'était plutôt... j'arrivais plus à m'en servir comme d'une consolation ou d'un monde parallèle. C'est plutôt que j'essayais de trouver des images qui correspondent à ce que je vivais, parce que j'avais pas de mots pour ce que je vivais. Je ne savais absolument pas que j'étais autiste. Et je me disais que j'avais un énorme problème, et comme la plupart des gens avaient l'air de considérer que c'était mal, je me disais que j'avais une perversion, qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je cherchais dans les livres de psycho, et en même temps j'essayais de me trouver des images mentales pour expliquer aux gens pourquoi je faisais des crises d'angoisse et pourquoi je hurlais la nuit de terreur. Et la meilleure image que j'ai trouvée à l'époque, c'était une souris de laboratoire dans un labyrinthe. Et je me représentais comme une souris qui se jette contre les murs parce qu'ils sont en plastique et qu'elle ne les voit pas. Alors que tout le monde autour les voit, moi je ne les voyais pas. Et je me disais vraiment, c'est ça ma vie, j'essaie de trouver la sortie du labyrinthe, je suis perdue, je suis toute seule. Je vois les gens très loin à travers des glaces, des plastiques, mais moi-même je n'ai pas le plan du labyrinthe et je ne sais pas comment m'en sortir. Longtemps après, quand j'ai un peu commencé à lire des choses sur l'autisme, j'ai revu cette image du labyrinthe et je me suis dit, c'est exactement ça. Et en fait, ça fait devenir très angoissé, malheureux d'avoir cette sensation. Depuis, j'ai moins la sensation du labyrinthe. J'ai toujours l'idée que je suis dans un labyrinthe, mais cette fois, j'ai l'impression d'avoir le plan. Donc, c'est moins angoissant. Et puis, j'ai un peu changé mon image mentale de la souris. Je me vois plus trop comme ça. Je me vois plutôt comme une sorte de chauve-souris. Qui tâte tout à distance avec des ondes. C'est quelque chose que j'avais découvert dans un livre pour enfants qui s'appelle Silverwing, que j'avais adoré enfant, et les chauves-souris, enfin, l'auteur invente un peu, romance un peu les pouvoirs des chauves-souris, et les chauves-souris arrivent même à se transmettre des mémoires de chauves-souris par les vibrations, des images mentales. Ça me plaisait beaucoup parce que moi j'aime beaucoup mieux les images que les mots. Et ils expliquaient comment toute leur perception, c'était se projeter et tout sentir à distance. Et moi, c'est vraiment ce que je sens en tant qu'autiste. C'est-à-dire que j'ai pas la vision que tout le monde a, j'ai pas accès au plan, et il faut que j'envoie des ondes à distance constamment pour comprendre ce qui se passe et vers où aller.
Concrètement, tu fais comment ? Parce que pour moi, c'est très brumeux.
En fait, concrètement, c'est essayer de ratisser tous les indices visuels ou audiovisuels dont je dispose. Et ensuite, pendant des heures, mentalement, les remettre en ordre et essayer de recomposer une image avec tous ces indices, ce faisceau d'indices, tout en sachant que je risque très fort de tomber dans l'erreur, que c'est de l'interprétation, mais que c'est mon seul moyen d'avancer. C'est mon seul moyen de comprendre des situations. J'ai pas d'autre.
Et c'est pour comprendre ou c'est pour prévoir des choses qui vont arriver ?
C'est un peu les deux. C'est anticiper, savoir comment me comporter, savoir comment on risque de se comporter les autres, mais c'est aussi très important pour moi de comprendre ce que ressentent les autres. Et donc, c'est un peu les deux. Si je peux donner un exemple, un parallèle qui peut-être vous aider à comprendre le processus, c'est quand je lis les livres de Jane Austen, j'ai l'impression qu'elle fait la même chose. Je dis pas qu'elle est autiste, j'en sais rien, mais quand elle décrit de manière très minutieuse et très extérieure la société autour d'elle et les réactions des gens, elle a un regard qui me fait penser à ce que mentalement, je me dis qu'elle doit faire mentalement le même travail que moi ou que ma petite sœur qui est autiste aussi. Je sais pas si tous les autistes font ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle décortique tout avec énormément d'attention et ça l'amène vers un humour un peu noir que je comprends très bien. Et c'est une question de voilà de regard et de tri. Voilà.
Alors, on dit souvent que effectivement dans l'autisme on a tendance à apprendre les schémas sociaux, les schémas comportementaux des autres. C'est un petit peu ça que tu décris là?
C'est une partie de ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est la seconde partie. C'est avec toutes les informations qu'on a recueillies, tous les exemples qu'on a recueillis. Après, il faut les organiser pour comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est réfléchir par système. D'accord. Donc, je suis très nulle en maths. J'ai même terreur des chiffres et des dates. Mais en fait, quand je vois ce que font les mathématiciens, quand ils font pas de l'algèbre, quand ils font juste des mathématiques qu'on apprend pas à l'école, je me dis en fait, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire, c'est essayer d'arriver à un endroit en utilisant des formules. Voilà, c'est reconstituer le réel, lui donner un sens d'après des tas d'éléments qu'on a sous la main.
D'accord. Et ça, du coup, tu en fais quoi là actuellement? Quelle est la production? Tu parlais beaucoup de dessin.
Je suis un peu dans une crise de sens par rapport à ça. Parce que très longtemps, mon objectif, ça a été d'aller vers les autres et de transmettre ce que j'ai de meilleur, c'est-à-dire des imaginations, des rêves, des histoires, des sentiments, des émotions, et faire rêver à travers soit le dessin, soit l'écriture, soit un autre média. Et en fait, ça suppose que ça soit très long dans le temps, ça suppose vraiment un travail de longue haleine, et ensuite d'atteindre l'autre. Et c'est avec l'idée, je pense, c'est avec l'idée ultime de laisser un héritage de soi et en même temps de partager son monde aux autres. Et en fait, actuellement, j'ai l'impression que finalement, je me demande vraiment où ça peut me mener parce que je me pose la question à quoi ça sert d'inventer des très belles histoires pour de futurs enfants qui, en fait, seront déjà probablement, à cause du réchauffement climatique, dans des situations de survie où ils seront déjà eux-mêmes dans des choses très difficiles. À quoi ça sert de leur inventer un très beau monde avec tout ce que ça suppose de production, c'est-à-dire que ce soit des livres ou que ce soit des images, ça va forcément entraîner une pollution. Par exemple, quand les gens me disent « tes dessins sont super, il faudrait en faire des t-shirts », moi, ça me pose un gros problème, parce que bien sûr, j'ai envie que les gens portent mes t-shirts, mais bien sûr, j'ai envie que les gens soient fiers de ce que je leur fais, mais ça veut dire s'impliquer dans l'industrie textile, en partant du principe que ça marche, que j'ai du succès. Ça veut dire produire des t-shirts, ça veut dire encore contribuer à quelque chose de terriblement grave, qui est la destruction de l'environnement et le travail de gens que je connais pas mais qui sont là quand même, et je ne peux pas ne pas y penser. Donc moi, ça me bloque tout de suite. Je ne peux pas inventer un monde, je ne peux pas produire des images et les diffuser si ça passe par la destruction de quelque chose de trop important, en fait. Ça sert à rien de créer une fiction merveilleuse quand tout s'effondre pour de vrai et qu'en plus on contribue à le faire. Donc moi, je suis plutôt dans l'idée d'essayer de trouver un moyen de réaliser ça toujours, hein, d'offrir le meilleur de moi-même, mais sans faire de dégâts. Pour l'instant, je suis encore un peu en recherche là-dessus. Après, c'est du point de vue de l'idéal. Mais voilà, je suis un peu bloquée à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que chaque geste compte. Donc, pour l'instant, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est que quand je vois que quelqu'un a besoin de quelque chose, que ce soit une idée, un objet, quelqu'un dont je me sens proche, et que je peux lui offrir une peinture qui, en quelque sorte, réponde à son vœu. Même si, par exemple, ma mère avait toujours rêvé d'une cheminée. C'était vraiment le symbole du foyer pour elle, et elle n'en a jamais eu. Et je lui ai offert un feu que j'avais peint. Et ça a été extrêmement important pour elle et pour toute la famille. Et des gens de la famille ont commencé à me demander des feux. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'elle n'a pas eu sa cheminée pour de vrai, mais elle a eu quelque chose qui était extrêmement important symboliquement pour elle. Donc en ce moment, plutôt que de me lancer dans réussir industriellement à vendre des livres, des t-shirts ou quoi, déjà, j'essaye de me recentrer sur ce qui est important et j'essaye de, quand j'ai envie, quand je sens que c'est important, de faire une peinture qui représente quelqu'un, un souvenir ou quelque chose d'important pour quelqu'un à qui je tiens. Et déjà, pour moi, c'est une énorme victoire quand j'atteins ma cible et que l'émotion passe. Pour moi, déjà, ça justifie...
C'est ta manière de partager, finalement.
Oui.
Et c'est intéressant ce que tu disais, parce qu'au final, dans les situations de catastrophe, l'imagination, toi, t'a permis de te sauver de ces situations difficiles, en fait.
Après, pas éternellement, parce que j'avais beau... J'ai réellement cherché au fond des armoires des passages vers d'autres mondes. Tellement j'étais désespérée. Je savais rationnellement que ça ne pouvait pas arriver, mais j'avais toujours le réflexe de poser la main au fond de l'armoire à cause du livre Narnia où on passe au fond de l'armoire. Oui.
On avait la référence.
Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, avec mes peintures, quand j'arrive vraiment à mettre toute mon émotion dedans, je sais bien qu'on ne peut pas passer à travers la peinture, mais j'ai l'impression d'offrir une porte, au moins sur mon émotion. Et ça me satisfait un petit peu. Ça répond un peu à ce besoin de trouver une porte.
Tu as parlé à plusieurs reprises hein, de l'autisme. À quel moment et sur quels éléments ce diagnostic a été confirmé?
En fait, j'arrivais plus à vivre. Et je rencontrais des tas, pas seulement des problèmes sociaux, mais même physiquement, je commençais à être en très mauvais état parce que tout était était trop dur pour moi à vivre et donc du coup je suis allée vers la personne qui me soignait et je lui ai expliqué que voilà lu des tas de trucs mené mon enquête de mon côté et je voulais savoir si j'étais autiste ou pas. J'ai mis très longtemps à arriver vers l'idée de l'autisme parce que j'avais une idée complètement stéréotypée en tête de la personne hyper forte en maths, de préférence un garçon, extrêmement froide. Et en plus, une psy, il y a très longtemps, m'avait dit « Vous n'êtes pas autiste, vous avez envie de vous connecter avec les autres. Un vrai autiste, il reste dans son coin, il n'a pas envie. Et il se suffit à lui-même. » Donc j'avais écarté l'idée et j'étais plutôt partie du côté... Enfin, j'avais un peu écumé tout le rayon psy de mon CDI quand j'étais au lycée, à savoir si j'étais schizophrène ou psychopathe ou quoi que ce soit qui justifie tout ce que j'avais vécu avec les autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a un peu plus mis sur la piste, bon, déjà, j'ai une psy qui m'a dit que j'étais vraiment différente, que c'était pas une illusion. Et ensuite, j'ai rencontré des gens en jouant à des jeux de rôle. Donc, parce que j'adore le théâtre et j'adore les histoires. Donc, petit à petit, j'en suis venue à fréquenter, à m'intéresser aux gens qui jouaient des jeux de rôle, soit sur table, soit en costume dans la forêt. Toujours de manière un peu extraterrestre en marge, hein, parce que j'étais pas à l'aise avec les autres quand même, mais ça me fascinait d'arriver à faire vivre des univers le temps d'une soirée ou de quelques jours. Et parmi ces gens, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes similaires aux miens et qui m'ont dit « mais en fait, t'es autiste ». Et en fait, eux étaient souvent diagnostiqués... Et c'est vrai que parmi les femmes de ces communautés rôlistes, il y avait une bonne partie qui avaient les mêmes problèmes que moi au quotidien, et même dans leur écriture, quand je les lisais sur Internet, elles avaient les mêmes problèmes de syntaxe et les mêmes travers dans quand elles disaient leurs émotions d'une manière énorme, sans filtre. Petit à petit, ça m'a amenée vers l'idée que, en fait, l'autisme n'était pas ce que je croyais. Et de là, la nécessité de voir si c'était ça le problème.
Et toi, les symptômes que tu as remarqués, c'était quoi ? En commun avec ces personnes-là ou d'autres ?
Une tendance à m'attirer des ennuis dans les groupes, en général. Soit parce que je dis, soit parce que je dis pas. Mais en tout cas, ne jamais être au bon endroit, au bon moment, à ne jamais avoir l'air normal. Après, bon, moi, j'avais l'habitude de ma personne, mais j'avais surtout l'habitude de ce qu'on me renvoyait, c'est-à-dire les insultes en général, t'es bizarre, t'es cinglée, t'es folle. On m'a beaucoup traité de droguée aussi, alors que ça ne justifiait pas. Du coup, j'étais tout le temps renvoyée à une différence. Ce que je voyais, c'est que les autres avaient beaucoup moins de difficultés entre eux et que ça passait par ça. Aussi que j'accordais du sérieux, de l'importance à des choses auxquelles peu de gens accordaient de l'importance.
Par exemple ?
Le sens des choses. Que les choses aient vraiment un sens. La vérité. Aller au fond, du fond, du fond. Et pour ça, y passer des semaines sur un seul sujet.
Ouais.
Et puis j'ai vu aussi que j'avais des problèmes de concentration par rapport aux autres, des problèmes à retenir ce qu'on me disait. Par exemple, un truc vraiment très handicapant, c'est que j'avais besoin de médecin pour me soigner parce que j'ai des tas de problèmes physiques. Et quand je parlais à un médecin, j'étais incapable de me rappeler ce qu'il disait, de ce qu'on se disait, parce que j'étais beaucoup trop occupée à essayer de rester en contact avec lui. Je ne sais pas exactement comment expliquer, mais c'était déjà tellement usant, fatigant de l'écouter et de lui dire des choses et de lui dire ce que j'avais prévu de dire et d'avoir l'air normal, qu'en fait, après, c'était comme si je n'avais pas vu le médecin. Enfin, je ne pense pas à dire épuisement tout de suite parce que j'ai l'impression que c'est mon état normal, mais en fait, j'étais terriblement épuisée en permanence vraiment de plus en plus l'impression que tout ce qui était normal pour les autres, moi j'arrivais pas à le faire, et que des choses qui pour les autres étaient extraordinaires, j'arrivais à le faire, d'être complètement en marge.
Et cet épuisement que tu décris dans ta relation, donc dans la communication avec ton médecin, est-ce que c'était la même chose avec d'autres relations, donc amicales ou familiales?
Oui, et ça c'est vraiment la plus grosse douleur, je pense, parce que c'est quelque chose d'être en marge de son époque ou de son monde, mais c'est encore autre chose que les gens de même pas pouvoir vraiment se faire comprendre des gens qu'on aime ou les comprendre. C'est vraiment terriblement douloureux. Ou alors d'être vu comme quelqu'un qui fait exprès de pas être pareil aux autres, de pas dire ce qu'il faut dire. Déjà, c'est dur en société, c'est dur à l'école, mais c'est encore plus dur avec les gens qu'on voit au quotidien.
Et du coup, le fait d'avoir ton diagnostic, est-ce que ça t'a aidé par rapport à ça ?
Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Parce que pour moi, c'était la fin d'une sorte de quête très longue. C'était la fin d'une énorme angoisse. Et en plus, de manière moins existentielle, j'ai vraiment l'impression que ça m'a sauvée. Que c'était immense pour moi. Déjà arrivé à l'idée, à me reconnaître dans l'autisme, c'était déjà beaucoup. Mais en plus, qu'une spécialiste me dise « c'est ça », pour moi, ça a énormément changé de choses. Okay. Une énorme pression est partie, en fait. Ça m'a laissé beaucoup plus d'espace mental et j'ai pu commencer à me soigner, je pense.
Et est-ce que ce diagnostic avait un impact sur ta créativité, ton imagination ?
Oui. J'ai accepté, je me suis laissée la possibilité d'avoir mon propre rythme, de m'écouter et de voir que j'avais jamais vraiment respecté mon rythme, moi, et que c'était primordial pour arriver à, non seulement à dialoguer avec les autres et avoir l'énergie de faire des choses aussi prosaïques que la vaisselle ou la cuisine, mais même pour créer, c'était important de ne pas être dans un rythme qui me fasse violence, en fait. Maintenant, je sais que j'ai besoin, parfois, après des choses qui semblent insignifiantes aux autres, de prendre parfois 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour me remettre de quelque chose. Et qu'après, je suis à nouveau prête à créer des choses, mais qu'il faut que je me laisse le temps de me poser avant. Il y a un personnage qui est très bien pour comprendre ça, c'est Kiki, la petite sorcière, dans un film de Miyazaki. Elle n'arrive plus à monter sur son balai. Elle est en pleine crise de sens. Elle se force à l'image de ce qu'elle veut, c'est-à-dire quelqu'un de fiable, qui rend des services et qui est magique. Et c'est ça. Elle croit qu'elle n'est rien sans ça. Et quand elle n'arrive plus d'épuisement à faire les choses, elle a une copine qui vient la voir et qui lui dit « Écoute, t'as assez essayé. Il faut que tu te poses. Il faut que tu fasses des balades dans la nature, que tu penses à autre chose. » Que tu laisses les choses revenir à toi. Et ça, j'ai pleuré plein de fois. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et ça, c'est quelque chose en tant qu'autiste que je ressens, mais que je partage avec le... Je ne sais pas du tout si Emilia qui est sur le spectre ou quoi.
Encore
hein. Ou son équipe, ou la personne qui a... ou l'écrivain qui a créé avant lui le personnage de Kiki. Mais ça, c'est complètement similaire. Dans la création et dans le... En tout cas, moi, dans la manière dont je vis mon autisme, il y a des moments où on ne peut rien faire et il faut rien faire. Il faut laisser les choses se recharger naturellement.
Ouais. Et comment tu vas aujourd'hui, donc, vu que tu as appris à te donner le temps?
Aujourd'hui, honnêtement, je suis très, très en colère. je me trimballe beaucoup de traumatismes. Je suis encore très frustrée sur plein de plans. J'essaye d'apprendre à gérer mes émotions, les accepter, leur faire une place. Le film Vice Versa m'a beaucoup aidée pour ça, parce que j'en ai parlé avec ça a plu à toute ma famille, hein, même les non autistes, mais je pense que c'est extrêmement émouvant quand on a refoulé ses émotions tellement d'années, qu'un dessin animé nous prenne par la main et nous dise « Voilà, on a des émotions désagréables et on ne peut pas faire autrement que de les vivre. » Et maintenant, je suis encore dans ce travail-là. J'ai encore extrêmement de mal à accepter d'être en colère ou d'être triste. Mais je sais qu'il faut faire une place, parce que sinon, on finit par exploser. Et après, c'est très long de se remettre en forme. Mais comme j'ai beaucoup de mal à comprendre même parfois si je suis en colère ou si je suis triste ou si ça correspond à une émotion en particulier, il faut que je trouve des ruses au quotidien pour prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et même si j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, accepter ce qui se passe. Dans ce cadre-là, de cet apprentissage-là, c'est vraiment comme ça que je le ressens, comme un apprentissage, c'est très utile l'imagination, parce qu'on peut se créer un espace, d'ailleurs c'est un exercice que je fais régulièrement avec une psy, hein, qui m'aide, un espace sécurisé dans sa tête où on laisse venir les choses, même les choses agréables. Et pour ça on a besoin d'imagination, on ne peut pas y arriver sans imagination. Il y a aussi un exercice pour lequel j'ai énormément de mal, mais je travaille. C'est d'apprendre, quand on ne peut pas affronter quelque chose de trop dur, à mentalement le mettre dans un coffre ou dans une cave. Ça, c'est extrêmement dur. Je suis un peu comme un chien avec un os quand il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que je le comprenne. Et le problème, c'est qu'il y a des moments où je ne suis pas en état de le comprendre et ça peut me mettre encore plus mal. Et il y a des choses que je peux comprendre qu'avec l'aide d'autres personnes. Et il faut apprendre à lâcher prise et à le mettre de côté un moment. Et donc, il y a des ruses d'imagination comme ça pour y arriver.
Et ton imagination te permet en tout cas de te mettre dans des lieux qui sont des sortes de safe place ou des choses comme ça.
Oui, voilà.
Ouais, c'est vraiment finalement ce que tu faisais déjà instinctivement quand tu étais enfant, quoi.
Ouais, ou d'être moins intolérante envers les idées des autres. Ah, pour quelqu'un qui me rencontre, sans savoir qui je suis et que je suis autiste, je peux avoir extrêmement douce et malléable et élastique et acceptante. Mais en fait, au fond, je suis extrêmement difficile à convaincre, dur. J'ai vraiment un noyau très très dur. Et pour changer d'avis, ça me prend des années. Et quand je rencontre un avis que je trouve faux, je peux être vraiment très, très catégorique et très dure. Passer par des métaphores, par des images, peut me permettre de contourner un peu ce problème d'opposition, d'un peu développer ma théorie de l'esprit et de me mettre un peu plus... me mettre à la place de l'autre, je sais faire, mais me laisser du temps aussi pour moi changer d'avis, j'apprends encore. Okay. Je crois que c'est Emily Dickinson qui disait que la vérité, c'est très bien de le dire, mais il vaut mieux le dire de manière oblique. Donc...
Mmh. Tu apprends à le faire de manière
voilà. C'est ça. J'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus.
Ok, eh ben, on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, du coup, Mona, pour tout ce que tu as pu nous confier aujourd'hui. C'était super intéressant. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé, dans 15 jours. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Merci pour votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt.